On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous et soyez les bienvenus, comme tous les soirs sur France Bleu, ou peut-être pour la première fois, c'est On se dit tout, votre émission de confidence. Tous les soirs, on choisit un thème pour vous et tous les soirs, vous venez nous en parler avec passion. Ce soir, il est question de vous, vous qui êtes fan, enfin plutôt admiratif, on va le dire comme ça, du travail de quelqu'un. Quelqu'un qui a compté pour vous, qui a été un révélateur dans votre carrière, qui vous accompagne mine de rien encore aujourd'hui. Quelqu'un que vous aimez bien, célèbre ou pas, un chanteur, un écrivain, un anonyme peut-être aussi. On vous écoute jusqu'à 22h et c'est parti.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, on se dit tout sur les fans, même si j'aime pas trop ce mot. Forcément, on pense au fanatisme qui va avec. On va dire plutôt que vous aimez beaucoup quelqu'un. Voilà, que cette personne compte pour vous, qu'elle est ou qu'elle a été importante à un moment de votre vie. De qui êtes-vous admiratif? On vous écoute jusqu'à 22h et c'est Caroline qui va ouvrir cette émission depuis Paris. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Alors vous, c'est Madonna.
Ouais, moi c'est Madonna et c'est marrant parce que vous parliez juste du terme fan et j'aime pas trop parce que justement ça fait un peu fanatique et c'est pas mon cas, mais je crois quand même que j'admire effectivement beaucoup cette personne et qu'elle m'inspire énormément.
Alors ça a commencé quand vous et Madonna? Est-ce que vous étiez là à ses débuts, les débuts de Madonna?
Et alors non, c'est ça qui est marrant parce que moi j'ai vraiment commencé à être fan, on va dire, de Madonna quand elle a sorti, alors pas au tout début, on a une petite différence d'âge, elle et moi, j'ai 38, elle doit avoir, faut pas le dire, mais
elle a dépassé la cinquantaine. Ah oui, déjà.
Oui,
ah
oui. Elle est à 58. Et donc j'étais pas spécialement fan d'elle dans les débuts, les années 80, vraiment le gros moment, mais quand j'avais, je crois, 18-19 ans, elle est revenue en force avec l'album qui s'appelait Ray of Light, qui était dans un tout nouveau style. Et en fait, ça m'a permis de redécouvrir tout ce qu'elle avait fait avant. Et ça m'a rappelé mon enfance. En fait, je me rendais pas compte, mais il y avait tous ces tubes des années 80 qui avaient toujours été là. Et j'ai commencé à m'intéresser à ses musiques, au côté festif, etc. Et à tout ce qu'elle avait pu faire, la diversité, puis à sa carrière, en fait. Et c'est ce que j'admire aussi beaucoup chez elle, c'est que c'est vraiment le girl power incarné, quoi.
Mais quand vous dites elle m'inspire, elle vous inspire à quel niveau, Madonna?
Elle m'inspire parce que c'est quelqu'un, quand on voit donc la durée de sa carrière, parce que c'est une femme, c'est la première, je pense, vraiment star mondiale femme à ce point. Ça fait 30 ans, je pense, qu'elle fait carrière. Mmh. Je trouve qu'elle est extrêmement forte et que derrière les provocations qui font rire ou qui énervent les gens, il y a quelqu'un qui est, je pense, très... très habile, très intelligent, qui explore beaucoup de choses au niveau artistique. Elle est ni une super chanteuse, ni une super danseuse, je le dis honnêtement, mais c'est...
J'aimerais bien danser comme elle, moi, quand même.
Ouais, non, mais moi aussi, mais quand on voit ses danseurs à côté, c'est encore autre chose. En revanche, c'est une super showwoman, et je crois qu'ensuite, je suis vraiment devenue fan absolue la première fois où je suis allée à un de ses shows, quoi.
Là, ah oui, vous l'avez vu en vrai, claque. En vrai de vrai.
Oui, oui. Voilà.
Vous parliez des provocations de Madonna, elle a aussi été beaucoup critiquée à un moment donné dans sa carrière. Vous suiviez ça aussi? Vous étiez genre, mais non, c'est pas normal, moi je l'adore? Ou est-ce que, justement, on se pose des questions, on se dit, bon, où est le vrai, où est le faux?
Alors, ça dépend des moments, j'ai un peu de recul. Après, je sais pas si vous parlez du... Enfin, il y a le moment où elle avait été vraiment beaucoup critiquée, c'était quand elle a sorti l'album Erotica, je pense. Enfin, peut-être le plus, ou alors récemment...
Qui touchait à la religion, c'est ça? Non,
oui,
c'était pas celui-là.
Non, Erotica, c'est encore plus vieux.
Ah oui,
c'était
oui,
très
oui.
Sexuel, très explicite.
Ah oui, je me souviens du clip, oui.
Là, c'était vraiment la provoque sexuelle. Bon, maintenant, je pense que ça passerait sans problème. Oui, tout ce qui était lié à la religion, là, quand elle s'était mise à la cabale. Mais finalement, pour moi, ça... Je m'en fiche un peu parce que tout ça, c'est un... Je trouve que, voilà, peut-être que dans 4 ans, elle va avoir des nouvelles fixettes comme ça. Tout ça, c'est un peu de l'accessoire, quoi. Elle fait des nouveaux trucs, elle découvre des nouveaux trucs. Ça a l'air d'être aussi quelqu'un qui change beaucoup de hobby. Hein. Je pense que c'est un peu oublié, peut-être, la cabale. Et moi, je trouve que, non, je la vois au-delà de ça, quoi. Je la vois dans la continuité et sur tout ce qu'elle a fait, sa carrière. Et puis vraiment, les concerts, quoi, les shows, quand on y va, c'est des moments énormes.
Y a des objets, Madonna, chez vous, ou vraiment, non, ça, c'est pas votre truc?
Alors, j'ai gardé le premier t-shirt que j'ai acheté au premier concert où je suis allée à Bercy, à l'époque ça s'appelait Bercy, t-shirt que j'avais acheté une fortune, et un petit, juste quelque part, un petit porte-clés, mais non, il n'y a pas de poster, j'impose pas ça à ma famille, et je suis pas fan dans le côté collection, quoi. Mais en revanche, je suis fan effectivement,
ouais, l'admiration.
Vraiment beaucoup d'admiration à suivre sa carrière, et puis j'ai un peu honte de le dire, mais je me dis qu'à un moment elle va disparaître et ça va être horrible.
Pas tout de suite, le plus tard possible, s'il vous plaît.
Mais quand on voit que Prince, il y a eu les trois grands de sa génération, enfin les deux grands de sa génération qui sont partis, là, Michael Jackson, Prince,
et George Michael.
Et George Michael aussi. Enfin voilà, c'est vrai que des fois j'y pense et en fait quand je disais aussi qu'elle m'aide beaucoup, c'est que très régulièrement quand j'ai un coup de blues ou autre, j'écoute ces morceaux avec qui on a certains. Je sais qu'il y en a certains pour telle ou telle humeur que j'ai et systématiquement ça me rebooste.
Bah ça tombe bien, on va l'écouter Madonna là maintenant tout de suite.
Et vous allez voir ce que ça fait.
Avec Frozen, c'est le titre qui est prévu pour parler de Madonna, rendre hommage à Madonna, pour profiter de Madonna. Alors c'est pas le plus dansant, mais vraiment on va en profiter aussi avec vous. Merci Caroline d'avoir été avec nous.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Les fans, c'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h avec vos témoignages, vos souvenirs, vos émotions. Vous qui adorez quelqu'un, qui êtes admiratif de quelqu'un, qui avait pris peut-être une certaine direction justement grâce à cette personne. Et après Madonna, changement de cap radical, on va parler du commandant Cousteau avec Guilhem de La Ciotat en Provence. Bonsoir Guilhem.
Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous.
Alors quand vous étiez petit, vous, votre héros, c'était donc le commandant Cousteau.
Ouais, bah écoutez, oui, ça peut faire rire.
Ouais, j'ai pas dit ça, non, je respecte.
Mais effectivement, moi j'ai des souvenirs de gamin le dimanche, hein, puisque c'était diffusé le dimanche, il y avait les documentaires de l'équipe Cousteau, l'Odyssée Cousteau qui passait à la télé. Et moi, gamin, je me revois être scotché à la télé à regarder ça, quoi. Parce qu'il y avait de l'aventure, il y avait des bateaux, il y avait de la mer, il y avait des sous-marins improbables, hein, c'était pas si fréquent que ça, il y avait toujours, ben voilà, ça rebondissait de tous les côtés, c'était presque un feuilleton, alors que c'était quand même un documentaire à la base, mais il se passait, voilà, toujours plein de choses, et je m'imaginais, moi, gamin, être dans la peau du commandant Cousteau ou des gens de son équipe, quoi. Je voyais des mecs.
Ah, vous vouliez pas être le chef?
Ah non,
non, pas forcément. Chef,
c'était... Ouais, non, c'était la magie de cette aventure-là, quoi. Il y avait Albert Falco qui était le capitaine du bateau, on les voyait arriver dans des ports, réparer le bateau qui était en panne, et j'avoue que ce petit côté un peu bricoleur-baroudeur me faisait pas mal rêver quand j'étais gamin.
Et est-ce qu'il vous a fait rêver encore après, en grandissant, à l'adolescence, et puis à l'âge adulte après? Est-ce que Cousteau a toujours été là?
Alors figurez-vous que c'est en écoutant la thématique de votre émission que je me suis dit, au final oui, parce que sans me l'avouer, dès que j'ai pu m'acheter une caméra Super 8, je me la suis achetée. Quand j'ai pu faire des études de biologie marine, entre autres, je l'ai fait. Et puis quand j'ai fait d'autres études et que je suis devenu journaliste, au final, j'ai un peu bouclé la boucle de ces aventuriers où il y avait à la fois l'envie de découvrir le monde, de le comprendre, et puis l'envie de faire partager ce qu'ils ont pu voir, quoi. Moi, c'était ce compte-rendu-là, c'était de rendre accessible des choses qui l'étaient pas, qui me fascinaient réellement, quoi. De voir.
Mais pas forcément de plonger, d'aller filmer sous l'eau. Vous l'avez pas fait, ça?
Ça, je l'ai jamais fait, mais. À ma façon, voilà, de faire partager ce que j'ai pu voir ou constater, j'avoue que c'est quelque chose, sans doute, qui indirectement m'a animé. C'est-à-dire que sans doute, ces années-là de gamin à fantasmer sur l'équipe Cousteau ont créé des choses en moi qui sont...
Mais qu'on retrouve plus tard, peut-être, non? On se dit, ah tiens, finalement, c'est quand on fait un peu le bilan de sa vie. Enfin, je sais pas quel âge vous avez, c'est peut-être pas l'âge du bilan, mais quand on regarde en arrière, on se dit, ah finalement, ces choix-là, c'est peut-être Cousteau, quand j'étais petit, qui a fait que...
C'est exactement ce que je me dis, en fait. Je me dis que si j'avais pas sans doute regardé ces documentaires télévisés à la télé pendant des années, peut-être que j'aurais pas eu la même trajectoire, le même parcours de vie. Donc je regrette pas. Et alors c'est vrai que ça peut faire rire quand il est le commandant Cousteau. On imagine un truc un peu ringard, un mec avec un bonnet rouge sur la tête. Mais au final, je me dis que oui, ça a dû créer des bases, voilà, dans mon éducation, dans ce que j'ai pu être, dans la façon dont je vois le monde. Oui, je pense que réellement, ça a eu une influence à un moment donné, quoi.
Et le film L'Odyssée avec Lambert Wilson qui est sorti récemment, vous êtes allé le voir?
Alors, j'ai pas voulu aller le voir, figurez-vous, parce que j'avais gardé. Mais c'est par choix, hein, c'est par choix. parce que j'avais moi en tête toutes ces images-là, les véritables images de l'équipe Cousteau en tête, qui sont encore très présentes. Hein. Je les revois avec leur caméra sous-marine jaune, aller filmer des hippopotames dans des fleuves. Et je me suis dit, au final, ça va t'apporter quoi? Parce que l'histoire, j'ai pu un peu la lire après dans des bouquins, quoi. Parce que
non, mais c'est pas l'histoire très drôle non plus. Il y a l'histoire familiale aussi du commandant Cousteau, dont on parlait pas dans les documentaires. Hein.
Dont on parlait pas, mais ça ne m'intéresse pas, à la rigueur. J'avoue que tout ce volet-là m'intéresse pas. J'avoue avoir suivi indirectement l'aventure comme ça, sans non plus être un fan absolu. Hein. J'ai pas d'objet chez moi de l'équipe Cousteau, mais d'avoir suivi l'aventure de la Calypso, là, qui avait coulé dans un port, qui est revenu en France, à Marseille, et puis qui est parti dans le Finistère. Et donc qui a connu un parcours. Ça, je l'ai suivi parce que je trouvais ce symbole intéressant, voilà, de se dire que pendant des années. Parce que quand j'en parle, j'étais pas le seul, quoi. Quand je parle avec des gens qui, comme moi, vont avoir 40 ans. Je me rends compte que ça a marqué, quoi. Quand on regardait la télé petit, on avait du Zorro ou du commandant Cousteau. Enfin, ça, aujourd'hui, le documentaire naturaliste animalier est très présent. Il y en a partout à la télé. On peut voir des images.
Il n'y a pas de héros, finalement. On n'a plus ce héros. Il y a eu Nicolas Hulot après, mais il n'y a pas forcément aujourd'hui de quelqu'un qui peut faire rêver comme ça.
Exactement. Moi, j'avoue que ce truc-là qui était mis en scène comme un feuilleton, véritablement, comme un roman, comme une belle histoire, quoi. C'était presque un conte pour gamins. Il n'y a pas eu d'équivalent depuis, quoi.
Bah c'est beau de parler du commandant Cousteau comme vous le faites, Guilhem. Ça fait du bien et ça va certainement rappeler plein de souvenirs à plein de gens qui vous écoutent ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu, Guilhem.
Avec plaisir, Vanessa.
Bonne fin de soirée.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, c'est une émission qui fait du bien parce qu'on vous écoute nous parler des gens que vous aimez. Et ça, c'est hyper positif. Et parfois, il y a plein de raisons différentes qu'on aime quelqu'un, des raisons rationnelles ou pas d'ailleurs. On a eu Madonna, on a eu le commandant Cousteau et maintenant, c'est de Pedro Almodovar dont nous allons parler avec Iris de Paris. Bonsoir Iris.
Bonsoir.
Comment ça a commencé votre histoire avec Pedro Almodovar ?
Oh, c'était un total hasard, un peu à l'aveugle en fait, paradoxalement pour du cinéma.
Oui.
C'est un copain qui m'a dit « Viens, on va au ciné, il paraît que ça c'est bien ». Bon, je me suis retrouvée devant Talon Aiguille et puis c'était fou quoi. J'avais l'impression d'être devant un film ou quelque chose que j'avais jamais encore vu jusque-là et je me souviens mais de tout. Même parfaitement du générique, ça avait commencé là. J'avais jamais vu une image du film, mais déjà le générique m'avait marqué.
Talon Aiguille, qui est le premier grand succès en France hein, de Pedro Almodovar, on peut le dire.
Oui, tout à fait.
Ouais. Vous avez tout aimé ensuite de Pedro Almodovar, ou est-ce que par moment vous avez dit « Oh non, ça c'est pas lui, c'est pas ce que j'aime
». Il a une période très... Enfin, qui est un peu qualifié de Movida, qui était dans l'Espagne post-franquiste, et donc où vraiment, là, il allait dans l'excès, dans le décalage. Et moi, je suis plus fan de cette période-là que la période un peu plus récente, qui est peut-être un peu plus dark, un peu plus sombre, moins joyeuse, je trouve.
C'est un romantique, un nostalgique ou un provocateur, Pedro Almodovar, pour vous ?
Il a un petit côté de provocateur, mais c'est plus du décalage que de la provocation. Et puis je trouve ça, moi, ce que j'aime chez lui, c'est son sens super et très aigu de la condition féminine. Ses portraits féminins sont superbes. Je pense qu'il aime sincèrement les femmes et surtout leurs défauts. Et en fait, c'est ça c'est pour ça qu'il les dépeint aussi bien, je trouve.
Quand on aime Pedro Almodovar, ça veut dire qu'on attend avec impatience un nouveau film à chaque fois. Ça se passe comment, cette admiration pour lui? C'est quand un film sort, hop, vous y allez? Ou est-ce que vous les re-regardez à la maison? Est-ce que vous vous documentez sur lui aussi? Ou ça reste très formel au moment des sorties de films?
Alors ça reste assez formel. Alors c'est vrai que je les regarde aussi à la maison quand un petit côté, on y revient. Mais j'aime beaucoup les découvrir sur grand écran et c'est un peu comme un bonbon. J'ai hâte de voir ce qu'il y aura à l'intérieur, quoi.
Et vous êtes jamais déçu ?
Si. Bah, par exemple, ces derniers films, il y en a plein que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres que, je suis moins enthousiaste que sur un Talon Aiguille, sur un Tout sur ma mère.
Est-ce que c'est pas une question aussi de moment, d'époque, de ce qu'on vit aussi personnellement, qui fait qu'à un moment donné, on va vraiment peut-être plus se projeter dans un film que dans un autre ?
Peut-être c'est aussi un ton de sa part à lui qui est, je trouve, moins léger qu'avant, ou peut-être qui me touche moins, peut-être dans les sujets abordés aussi.
Vous l'avez croisé déjà un jour, par le biais de votre travail, ou sur une manifestation, je sais pas ?
Oui, je l'ai croisé une fois. Et je lui dis à quel point j'adorais son travail. Et ben, il a eu l'air content, mais je pense que c'est quelque chose qu'il a déjà entendu plusieurs fois.
Ouais, ça, c'est toujours compliqué de trouver le bon mot face à quelqu'un qu'on admire. On se dit, ah bah oui, il l'a déjà entendu 10 000 fois. Mais c'était quand même un beau moment.
Ah oui, moi, c'est un des moments voilà, que je marque avec une pierre blanche.
C'était quand, Iris?
Ouf, c'était au moment de Volver.
D'accord.
Et puis, bah oui, par mon travail, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de parler même pas mal avec lui. Et c'était super intéressant. Alors, il y a toujours le problème, je ne parle pas espagnol, lui ne parle pas anglais. Donc, là, il y a eu la barrière de la langue parce qu'on est passé par un traducteur. Donc, c'était moins direct le dialogue, mais c'était super quand même.
Ah, vous ne parlez pas espagnol du tout? C'est-à-dire que vous ne regardez jamais les films de Pedro Almodovar en version originale?
Alors, toujours en VO, mais sous-titré.
Ah oui, sous-titré, ouais.
Ouais, ouais.
Mais ça, c'est important de le garder, d'être vraiment dans le film.
Ah oui, je serais incapable de voir un Pedro Almodovar en VF. Je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal.
Si un jour Almodovar fait un gros navet, imaginons, on le souhaite pas évidemment, mais un film qui vraiment ne vous touche pas, ne vous plaît pas, ça veut dire qu'à un moment l'histoire d'amour entre guillemets s'arrête ou on garde le souvenir d'une belle histoire?
Ah non, au contraire. Tout le monde peut se tromper, on a tous droit à l'erreur. Non, non, c'est si ça se répète plusieurs fois dans le temps où je commencerai à m'inquiéter. Mais là, pour l'instant, il a toute ma confiance.
Ah bah, il n'y a plus qu'à alors. Vite, vite un nouveau film.
Oui.
Merci beaucoup, Iris, d'être venue nous parler de Pedro Almodovar. Merci d'avoir parlé aussi bien aussi de ce qu'on peut ressentir pour quelqu'un qu'on admire. Alors, être fan, c'est peut-être un grand mot. Il y a le côté fanatique que j'aime pas trop, mais de l'admiration, c'est peut-être le plus joli mot. Ça vous convient mieux? On le garde?
C'est complètement ça.
Merci beaucoup Iris et bonne soirée.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et on se dit tout fait la part belle aux fans. Ce soir, vous admirez particulièrement un artiste, un acteur, un écrivain, un philosophe, un militant écolo. Alors c'est le moment de nous en parler, de lui déclarer sa flamme en quelque sorte. Et c'est de Johnny Hallyday dont nous allons parler maintenant en compagnie de Laurent qui nous appelle depuis Toulouse. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Vanessa.
On a envie de dire oui, Johnny, évidemment, mais en même temps, c'était pas si évident que ça pour vous. Vous n'êtes pas né finalement avec Johnny Hallyday à la maison.
Absolument, parce que mes parents n'écoutaient pas du Johnny. Donc, en fait, j'ai découvert Johnny par moi-même.
À quel âge?
Oh, c'était vers 14-15 ans, j'étais au collège.
Et c'était l'époque de quoi, de Johnny, pour qu'on situe à peu près?
Alors, c'était plutôt donc, dans les années 80, on était sur la période 88-89, donc fin des années 80. Et moi, la révélation, ça a été sur l'album Cadillac, en fait. En 89, il a sorti cet album-là. Et j'avais un copain qui écoutait beaucoup cet album. Un voisin aussi qui mettait ça à fond, fenêtre ouverte. Et du coup, je commençais à m'imprégner, en fait, de la musique de Johnny. Quoi, tout simplement.
Alors, qu'est-ce qui vous plaisait à ce moment-là? C'était les textes? C'était la musique? Parce que vous êtes adolescent, on ne peut pas se dire un adolescent des années 80 et fan de Johnny, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, il m'a capté en fait hein, de par sa voix. Déjà, j'adorais sa voix, cette puissance qu'il avait dans la voix et surtout à cette époque-là. Et le côté assez rock qu'avait cet album, ce que je connaissais le Johnny plutôt variété. Moi, je l'ai découvert quand il a essayé bon Tennessee ou L'Envie, mais bon, voilà, j'aimais bien les chansons, mais sans plus. Par contre, cet album-là, Cadillac, en fait, était beaucoup plus orienté. Il y avait des morceaux beaucoup plus rock, et c'est ça qui m'a accroché avec des guitares. C'était un peu l'esprit américain et comme j'écoutais un petit peu la musique aussi américaine, bon, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à Johnny à cette époque-là.
Et là, est-ce que vous replongez dans sa carrière, ses débuts par exemple, ses débuts plutôt rock, ou est-ce que vous grandissez avec Johnny au fur et à mesure de ses albums?
Non, j'ai replongé en arrière parce qu'à cette époque-là, justement, il y avait une espèce de revival des années 60, que ce soit à la télé ou autre. Et donc, en fait, je me suis rebasculé dans le Johnny années 60 avec des chansons comme Idole des jeunes, Pour moi la vie va commencer. Et j'ai commencé à acheter des albums de ses débuts où là, j'ai découvert, voilà, j'ai redécouvert les chansons que j'avais plus ou moins entendues, soit en VO ou autre, comme Le Pénitencier. Et donc, en fait, j'ai reparcouru un petit peu sa carrière et j'ai commencé à acheter donc ses anciens albums, acheter des livres aussi pour voir un petit peu aussi le personnage quoi, qui commençait un peu à me fasciner.
Ah mais justement, vous l'aimez le personnage Johnny au-delà du chanteur, au-delà de la musique, l'homme qu'il est, vous l'admirez aussi?
Ah oui, moi j'aime ce qu'il dégage, sa façon, son côté instinctif aussi, cette façon qu'il a un petit peu comme un caméléon de s'adapter aux modes, de s'adapter aux courants musicaux, de toujours travailler avec des gens qui sont dans l'air du temps. À l'époque c'était Goldman, c'était Berger, là maintenant il travaille avec Yodelis, il a travaillé avec Obispo, bon encore Obispo pour moi c'est pas une référence, mais je veux dire, il a toujours su s'entourer des gens de l'époque, ou même dans les années 60-70 quand il faisait des adaptations, voilà, il faisait un petit peu découvrir aussi des choses qu'en France on n'avait pas l'habitude d'entendre.
Oui, carrément, oui.
Donc il y a tout ce côté, voilà, un peu caméléon qui me plaît bien chez lui, quoi.
Et lui ressemblait à Johnny Hallyday, vous y avez pensé? Parce que souvent quand on parle des fans de Johnny, on pense aux gens qui cherchent à ressembler à Johnny Hallyday.
Absolument pas, ça c'est pas du tout, moi c'est pas ce côté-là qui m'intéresse. Je veux dire, il faut avoir sa propre personnalité, il faut pas chercher à ressembler à quelqu'un, on est tous différents, on peut admirer l'artiste, moi ce qui m'intéresse c'est l'artiste, ses chansons, après chercher à lui ressembler, me trimballer avec un blouson de cuir ou des Santiago parce que lui il s'habille comme ça, ou avoir une moto parce qu'il a une moto, non
c'est pas votre truc.
C'est pas ça qui, même si quand je le vois, effectivement on le voit arriver sur scène ou autre, on s'est dit waouh, c'est vrai qu'il aime impressionnant. Après, voilà, je cherche à lui ressembler. Non, il faut que chacun, ceux qui cherchent à lui ressembler, pour moi, ça relève un peu de la pathologie, quoi.
C'est vraiment le côté fanatique. Voilà, on parle des fans, voilà, et fanatiques. Voilà.
Laurent, souvent sur Johnny, c'est des clichés. Souvent aussi sur des fans, c'est-à-dire on prend toujours des fans qui veulent lui ressembler. Et souvent, il y a toute une histoire derrière, quoi. Hein,
et on montre pas souvent des... quand on filme des concerts de Johnny, on voit pas souvent des gens normaux entre guillemets, oui, comme vous. On voit souvent ceux qui sont un peu grimés. Laurent, est-ce que dans votre famille, on aime Johnny Hallyday aussi? Est-ce que toute la famille a suivi?
Alors, le principal qui a suivi, c'est mon fils, en fait, qui a 13 ans et qui est fan aussi maintenant de Johnny. Alors, il a été beaucoup plus fan quand il était petit, c'est-à-dire il se mettait des DVD carrément quand il avait 4-5 ans. Il prenait une guitare en plastique et il imitait Johnny devant la télé. Donc maintenant, ça s'est un peu tassé, hein, parce que aussi maintenant, il rentre dans l'adolescence. Donc, ce qui est rigolo, c'est que de temps en temps, là, il écoute de la musique, donc de la musique actuelle. Et de temps en temps, au milieu, j'entends du Johnny. C'est-à-dire que dans ses playlists, il y a toujours des petites chansons de Johnny qui passe, et quand on va au concert, voilà, il vient avec moi. Et après, au fur et à mesure des années, j'ai converti à l'époque mon père, qui venait avec moi parfois dans les concerts. Maintenant, j'ai même mes beaux-parents qui viennent, et chaque fois qu'ils me disent, bon, hein, quand Johnny passe en concert, tu nous le dis, on vient avec toi. Alors qu'à la base, voilà, ils n'étaient pas spécialement fans de Johnny, donc ils aiment bien aller le voir en concert, ils apprécient, voilà, sans pour autant être des fans. Et en général, maintenant, on y va en famille, alors qu'avant, j'y allais tout seul, quoi.
Ouais, c'est une jolie histoire.
Ma femme, par contre, je n'ai jamais converti. Elle, non, elle, il n'y a pas moyen.
Mais c'est pas grave, vous l'aimez quand même, votre
absolument.
Femme.
Absolument.
Oui, heureusement. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous
plaisir,
et d'être venu nous parler de Johnny Hallyday, de cette passion, de cette envie aussi de mieux connaître le personnage, comme quoi il y a des déclics et à n'importe quel âge. Bonne fin de soirée, Laurent.
À vous aussi, Vanessa, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout. Avec Vanessa Lambert.
Et on se dit tout ce soir sur les admirateurs, les fans, sur vous qui avez de l'admiration, du respect pour une personnalité connue ou pas. Et c'est une jeune femme qui va nous rejoindre maintenant pour nous parler de Baudelaire. C'est plutôt pas commun, c'est Victoria qui est avec nous. Bonsoir Victoria.
Bonsoir.
Je le disais, c'est pas commun d'être fan de Baudelaire, même si encore une fois le mot fan n'est pas forcément le plus approprié là.
C'est ça, effectivement. On peut plutôt dire, c'est pas admiratrice ou. mais oui, c'était. Enfin, particulièrement quand j'étais plus jeune, en gros autour de 16 ans, j'ai eu une période hyper romantique où j'adorais lire Les Fleurs du Mal. J'ai découvert ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et puis j'ai lu plein de livres, en gros, de théories de Baudelaire, les paradis artificiels et tout ça. Et il faut dire que mes parents habitaient pas loin du cimetière du Montparnasse où est enterré Baudelaire.
Ah oui, d'accord.
Ouais, et donc quand j'ai découvert sa tombe, en gros, je me suis rendu compte qu'il avait deux tombes. Donc une un espèce de tombeau magnifique et un autre qui était voilà, assez standard où il était vraiment enterré, et donc cette espèce de tombeau magnifique, il y avait un petit banc à côté, et donc mon petit rituel, c'était d'aller lire Baudelaire, Les Fleurs du Mal à côté de son tombeau superbe au cimetière de Montparnasse.
Et il y avait d'autres personnes qui le faisaient ou vous étiez toute seule?
Non, j'étais toujours toute seule. C'était mon espèce de petit rituel personnel. Voilà.
Ça a duré combien de temps? Ça, c'est vraiment la période 16-17 ans, ou ça a perduré un peu plus tard après?
Non, c'était vraiment cette période. Après, voilà, je voue toujours une grande admiration à cet auteur, mais mais c'était vraiment à cette période-là, effectivement, où mes amis m'appelaient la nécrophile, parce qu'effectivement, je passais beaucoup de temps à côté de cette tombe de Baudelaire à lire ses textes.
On disait de Baudelaire, on le dit toujours, hein, qu'il était romantique, mélancolique, maudit aussi. Est-ce que ça nourrit le mythe quand on est une adolescente ?
Ah bah complètement, complètement. C'est vraiment cette espèce d'identification. Enfin, moi, j'étais complètement là-dedans en me disant que c'était une des seules personnes qui retranscrivait ce que je pensais, etc. Donc, voilà.
Vous êtes aujourd'hui, je le vois sur votre fiche, prof de français. Est-ce que Baudelaire est dans votre programme ?
Alors, malheureusement, j'ai des élèves un peu petits pour étudier du Baudelaire avec eux. Mais j'avoue que là, en ce moment, on est en train de travailler sur la poésie et le voyage en poésie. Et j'ai bien envie de glisser une petite invitation au voyage de Baudelaire dans les textes que je vais leur faire étudier.
Non, parce que c'est finalement, quand on regarde ça encore aujourd'hui, c'est assez intemporel et c'est assez moderne aussi dans l'écriture.
Ah bah complètement, hein, complètement. Et puis c'est vraiment un type qui a beaucoup compris de choses par rapport à son temps. En gros, c'est un des premiers à avoir remarqué qu'il y avait une vraie industrialisation de la littérature, etc., et que ça allait pas forcément aller vers le mieux, quoi.
Il y a un petit quelque chose de Baudelaire chez vous, une édition originale, un manuscrit. Il y a quelque chose vraiment qui a appartenu à Baudelaire chez vous ?
Alors non, je pense que ça coûterait une petite fortune, mais par contre j'ai effectivement une très 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 belle édition des Fleurs du Mal avec des tableaux surréalistes qui pèsent environ 10 kilos, je pense, et qui est très mise en valeur dans mon salon.
Vous le relisez encore aujourd'hui ?
Ah bah bien sûr, ouais, régulièrement.
Toujours un petit moment où on se pose, pas forcément
c'est
sur la tombe, mais...
Ça. Non, voilà, c'est ça.
Ça, c'était le délire de jeunesse, on va le dire comme ça. Mais c'est joli, c'était très poétique la façon dont vous en parliez en plus. Merci beaucoup, Victoria, d'être venue nous parler de Baudelaire. Fan de Baudelaire, j'aime bien, ça serait un drôle de titre. En tout cas, admirative de son travail, de son œuvre et puis du personnage, tout simplement. À bientôt, Victoria.
À bientôt.
Bonne soirée, au revoir.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
La suite de vos confidences jusqu'à 22h, des confidences autour des gens, des personnalités que vous admirez. Et on va parler de sport et plus particulièrement de rugby maintenant avec Céline qui nous appelle de Normandie. Bonsoir Céline.
Bonsoir Vanessa.
Alors vous, votre chouchou, votre référence, c'est le rugbyman Vincent Clerc, joueur toulousain, je dis pas de bêtises, hein, de Toulouse, hein,
non, c'est
toulousain.
Ça, c'est ça, tout
ouais.
À fait.
Ouf, j'ai eu chaud là d'un seul coup. Je vais vous poser une question bête Céline, pourquoi Vincent Clerc ?
En fait, mon mari regardait le rugby à la télé. Je me suis pris de passion pour ce sport qui véhicule des valeurs quand même assez, assez intéressantes. Et j'ai eu un coup de cœur sportif pour Vincent Clerc.
Sportif voilà. Uniquement, Céline ? Parce qu'il est plutôt bel homme. Hein.
Je pense pas ouais. Que. Voilà, c'est ça. Il est quand même un joueur qui est quand même assez charismatique et qui a plein d'autres qualités qui font que... Voilà, ça m'a...
C'est quoi ces autres qualités ? C'est-à-dire qu'à plus tard, vous découvrez pas que le rugbyman, vous découvrez l'homme aussi ?
Oui, on découvre l'homme parce que c'est un homme très généreux. Il est parent de plusieurs associations caritatives, notamment Dessine-moi une maison à Toulouse pour les parents. Donc il est présent à toutes les manifestations. Nous, il est président de l'association de l'association des Toussaints de Paris. Et il est relativement présent quand on lui demande des photos pour le groupe, pour les magazines, il n'y a pas de souci, quoi.
C'est quoi l'association les Parisiens, les Toulousains de Paris ?
Les Toulousains de Paris, en fait, c'est une association qui regroupe les expatriés de Toulouse qui habitent à Paris, ou les Toulousains de cœur, ou de, voilà, qui sont à Paris, en région parisienne.
Mais vous n'êtes pas du tout à Paris, vous, Céline ?
Non, du tout. Mais j'ai un ami qui est le président toulousain, lui, et c'est lui qui a créé cette association pour justement faire véhiculer l'image du Sud-Ouest en région parisienne.
Alors, il est le parrain, ça veut dire que vous l'avez vu déjà plusieurs fois, Vincent Clerc ?
Oui, oui, notamment après les matchs, quand il vient notamment face au Racing à Colombes, et aussi quand il vient avec le stade toulousain, voire le stade français.
Ouais, parce qu'en Normandie, il n'y a pas d'équipe très haut niveau de rugby encore. Hein.
Non, c'est ça. Donc les deux seules qui sont à proximité, on va dire, c'est Paris, et le stade français et le Racing.
Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que vous l'avez vu en vrai et pas devant votre télé ?
Eh bien, ça a été un peu... Je suis restée sans voix, on va dire. que j'ai été un peu surprise, quoi. Mais il a été disponible tout de suite et c'est le président justement des Toulousains de Paris qui a fait le geste d'aller le voir en lui disant que il y avait une supportrice qui était fan de lui, donc il a été très disponible. Et
qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On dit bonjour, je suis fan de vous, ou on essaye justement d'être un peu plus original?
Bah non, on n'est pas très original en fait. On fait comme tout le monde. On dit bonjour Vincent Clerc, je suis une grande fan de vous. Est-ce que ça serait possible d'avoir une photo? Donc très disponible et toujours à discuter, aussi bien avec le sourire aussi quand il y a une défaite, chose qu'on apprécie parce qu'il y a certains sportifs. Qui, eux, quand il y a une défaite, ne veulent pas du tout voir les
pas
supporters.
Du tout parler. Chez les rugbymen, c'est plutôt cool quand même. Ils sont plutôt disponibles.
Voilà, c'est ça. La sortie des matchs, c'est...
C'est pas des footballeurs, quoi.
Photo... Non, c'est ça.
Allez, bim, petit tacle au passage.
Ça. Moi, je vois notamment mon fils, il a réussi à avoir des photos avec pratiquement tous les rugbymen, quoi.
C'est
à Toulousain. Ils le prennent dans les bras, C'est génial, quoi.
Ça veut dire que vous avez transmis le virus à votre fiston aussi. Alors, votre mari aimait le rugby, visiblement, votre fiston aussi.
C'est ça. Et c'est ça. Il va demander gentiment. Et c'est vrai que, moi, j'ai dit à mon fils que quand on voit des rugbymans, on ne les appelle pas par leur nom de famille. On dit soit monsieur, soit par leur prénom. Mais il y a un minimum de respect aussi. Donc, ils sont aussi... Ils apprécient aussi quand les enfants ou même les adultes les appellent par leur prénom et non pas par leur nom de famille.
Et votre mari dans tout ça, parce que c'est un petit peu grâce à lui cette histoire, vous regardez le rugby, le sport que votre mari aimait, vous tombez devant ce match et vous voyez Vincent Clerc, il est pas trop jaloux votre mari, ça va?
Non, alors il me dit toujours « Ah ton chouchou, ah ton chouchou, ah ton chouchou ». Donc, mais non, il est prêt, après des matchs, à attendre 3 heures pour attendre que j'ai ma photo, donc il n'y a pas de souci là-dessus.
Finalement, vous avez de la chance de partager cette passion avec lui aussi. Oui. Il y a combien de couples qui n'ont pas les mêmes passions? Là, vous pouvez partir au match ensemble. Lui, il est content, il voit un beau match de rugby. Vous êtes content de voir un beau match plus Vincent Clerc?
Oui, et la première photo que j'ai eue, c'est un peu grâce à lui, parce que ce jour-là, on était à Toulouse, donc on a été à Toulouse pour voir un match du Stade Toulousain. Et au Stade Ernest Wallon, notamment à Toulouse, il y a 3 sorties. Et on l'attendait, on a fait quand même 3 matchs pour l'avoir, avant d'avoir ma photo. Et du coup, mon mari était une sortie, moi à l'autre, il m'a appelé par téléphone, il m'a dit « Levla, mon mari m'a dit... » En rigolant, t'as battu Usain Bolt au record de vitesse pour arriver jusqu'à Vincent Clerc. Donc, voilà.
Quand vous voulez, vous pouvez courir vite, hein.
C'est ça.
Ah, c'est
et quand
ça.
J'ai mis la photo sur Facebook, j'ai eu un nombre impensé de commentaires me disant « ça y est, t'as vu ton chouchou, ça y est, enfin la photo ». Donc, tout le monde était content et moi, par-dessus tout.
C'est quand le prochain rendez-vous avec Vincent Clerc, là, pour vous?
Là, pour l'instant, il est blessé. Donc, il est en rééducation suite à une blessure coup sur coup récemment. Il a eu début septembre, il s'est opéré de la cheville droite. Et là, début janvier, il s'est fracturé le talon d'Achille.
Il faut l'inviter à l'apéro, là, tranquille.
Voilà, c'est
à
ça.
La maison.
Donc là, on se dit... Ah oui, là, je sais pas s'il serait d'accord, mon mari. Et du coup, c'est vrai que là, on essaye... on a les 10 ans des Toulousains de Paris, justement, qui ont lieu cette année. On va essayer de faire en sorte de l'avoir auprès de nous en septembre.
C'est une belle histoire, ça, Céline. Et vous en parlez drôlement bien. Et on sent que c'est pas que, effectivement, le beau gosse Vincent Clerc, le rugbyman. Il y a aussi un homme engagé derrière tout ça qui est disponible.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est important. Et je le dis, tiens, pour les sportifs, peut-être qui nous écoutent, quand il y a des enfants qui viennent vous voir et pas que, mais quand il y a des petits qui demandent des autographes, des photos, même si vous venez de perdre un match, même si vous êtes fatigué, même si vous en avez marre, c'est important de prendre du temps pour une petite photo, un autographe, parce que c'est très important, vraiment.
Et là-dessus, le Stade Toulousain est très reconnaissant, aussi bien le président que l'entraîneur. Auprès des supporters qui sont là présents dans la victoire comme dans la défaite.
Mais oui, parce que s'il n'y a pas de supporters, c'est plus compliqué pour faire des matchs.
Ouais.
Merci beaucoup Céline d'être venue nous parler de Vincent Clerc ce soir sur France Bleu et on souhaite qu'il se rétablisse très très vite pour que vous puissiez en profiter très vite
aussi. Moi aussi, et j'espère le voir aussi rapidement à la télé, puisque là prochainement, on ne sait pas s'il continue sa carrière, s'il arrête ou s'il va à l'étranger.
Donc, s'il nous écoute, il nous appelle et puis comme ça, on fera passer le message.
Il n'y a pas de souci.
Merci Céline,
merci
bonne fin
beaucoup.
De soirée.
Au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Je suis fan, c'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h avec vos témoignages d'admirateurs plutôt que de fans d'ailleurs. Et si depuis le début, on voyait à peu près de qui vous nous parliez avec Madonna, le commandant Cousteau, Baudelaire ou Vincent Clerc, là, ça risque de se compliqué un petit peu avec Mélanie. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir.
Parce que vous êtes fan de qui, dites-nous?
De Lionel Nakache.
Lionel Nakache, c'est qui donc, voilà. Lionel Nakache?
Alors, c'est beaucoup de choses à la fois. À la base, si on peut dire à la base, il est neuropsychologue à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, il travaille beaucoup autour du cerveau, de la neurosciences, etc. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est assez éclectique. Et surtout, ce que j'apprécie chez lui, c'est son rapport avec ses patients. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui viennent le voir sont des gens qui sont lésés d'un point de vue cérébral. Mais il travaille avec eux plus que pour eux, en fait. C'est-à-dire vraiment, en étudiant les pathologies des gens, en fait, il découvre comment l'homme fonctionne globalement, quoi. Et c'est assez bluffant.
Mais comment vous l'avez rencontré? Vous êtes patiente? Vous avez été patiente vous-même? Comment c'est fait?
Du tout, du tout. En fait, non, en fait, c'est plus des domaines qui m'intéressent. Et puis, j'ai une amie qui m'a dit, oh, je pense que celui-là, il devrait t'intéresser. J'ai regardé une conférence et j'ai fait, ah oui, effectivement. Parce qu'il y a vraiment tout. Il y a le côté humain, il y a le côté vraiment plein d'humour aussi. Et puis, très, très cultivé au niveau littérature. Et puis, voilà, une volonté de convaincre aussi qui est assez passionnante. Donc,
un neuropsychiatre avec de l'humour, c'est vrai que ça doit être assez rare.
Psychologue, attention.
Psychologue, pardon. Ah oui, non, c'est pas du tout pareil, je suis désolée. Quand vous dites qu'il a beaucoup d'humour, c'est-à-dire
c'est ce qu'il sent aussi quand, dans ce qu'il écrit ou dans les conférences. En fait, il ponctue ses interventions d'anecdotes qui sont drôles sans jamais être méchantes par rapport à ses patients, et puis de l'humour aussi par rapport à sa propre expérience, parce qu'il utilise de plus en plus son histoire personnelle en fait pour expliquer aussi comment les gens fonctionnent, et donc voilà, par rapport aux erreurs qu'il a pu faire ou des choses comme ça, c'est assez drôle. Bon, faut le voir pour le croire, mais c'est vrai.
Mais vous êtes vraiment fan, c'est le mot approprié? Ou c'est un peu exagéré?
Oui. Ah ouais. Non, il a quand même été en fond d'écran de mon ordinateur pendant 2 mois.
Donc, ah oui, quand même.
Ah oui, voilà.
Comment ça réagit autour de vous quand quelqu'un passe sur votre ordinateur un neuropsychologue?
Ceux qui ne connaissent pas encore prennent le risque de me demander qui c'est. Tant pis pour eux, parce que du coup, ils en ont pour une demi-heure. Et les autres évitent soigneusement le sujet, parce que je suis un peu intéressable quand on commence à me questionner.
Vous l'avez rencontré en vrai?
Non.
Mais qu'est-ce qui se passe alors? Mélanie, il faut là?
J'aurais un peu du mal à lui exprimer quoi que ce soit, vu que même si je m'intéresse beaucoup à son domaine de prédilection, je suis quand même plutôt pas douée. Donc voilà, je pense que j'aurais pas grand-chose d'intéressant à lui dire et que son temps est pas mal pris. Mais,
non, mais ça va pas du tout ça. Là, je suis pas d'accord avec vous, Mélanie. Si vous l'aimez, si vous l'admirez, c'est peut-être le moment d'échanger avec lui.
Oui, tout à fait. Mais vu les personnes avec qui il travaille déjà, et il a l'air de travailler à peu près 48 heures sur 24, donc je vais le laisser en paix, savourer les quelques moments qu'il aura seul.
Peut-être qu'il nous écoute ce soir.
Peut-être, sait-on jamais.
Il sait qu'il y a une femme quelque part qui a sa photo en fond d'écran quand même.
Voilà, exactement. Et ça, c'est parce que j'avais pas le poster, hein, sinon.
Carrément.
Ouais.
Les gens vous prennent pas pour une folle parfois?
Si, mais ça c'est une habitude, donc c'est pas... Ouais. Voilà.
Mais c'est beau, enfin, c'est quelqu'un qui en plus aide les autres, c'est pas n'importe qui que vous admirez.
Oui, voilà, non, puis enfin, vraiment, même dans son dernier livre, vraiment l'exigence qu'il a vis-à-vis de lui-même d'être à l'écoute des gens et d'être vraiment dans l'empathie, c'est quand même quelque chose qui est pas si fréquent chez les grands professionnels de la médecine, on va dire. C'est assez touchant, en fait. Voilà. Il y a vraiment une recherche humaniste qui me plaît. Donc, voilà.
Mais quand j'ai vu sur l'écran fan de Lionel Nakache, j'avoue que j'étais un petit peu perplexe. Et puis, je me suis dit, finalement, on fait une émission sur les gens pour qui on a de l'admiration. Donc,
oui, voilà,
vous rentriez complètement dans le thème ce soir. Merci, Mélanie, d'avoir partagé avec nous et de nous avoir fait découvrir donc, ce neuropsychologue Lionel Nakache.
Eh ben oui, au plaisir, alors.
Merci beaucoup, bonne fin de soirée.
Le soir. Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et on va terminer cette émission consacrée aux fans avec Rémi qui est avec nous depuis Arras. Bonsoir Rémi.
Bonsoir à vous.
Alors vous, il y a plusieurs personnes que vous admirez, je le vois sur votre fiche, mais il y a surtout Amélie Nothomb, l'écrivain Amélie Nothomb.
Tout à fait, ouais, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, ça commence à dater. Ouais.
C'est quoi, un coup de foudre littéraire ou un coup de foudre pour le personnage, ou les deux?
Alors, ça a été d'abord un coup de foudre visuel, on va dire, hein, puisqu'avant tout, Amélie Nothomb, c'est un look, c'est un style que j'ai pu découvrir sur une émission de Canal+, lors de la promo d'un roman il y a 15 ans maintenant. Donc ce personnage que j'ai vu, qui m'a intrigué. Donc j'ai acheté le roman, je l'ai lu, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup, donc j'ai acheté toutes les anciennes éditions, j'ai lu donc tout ce qu'Amélie Nothomb avait fait jusqu'à ce moment-là.
Ça faisait combien de temps, parce que là je me dis déjà 15 ans, il y a combien de temps qu'elle a commencé à écrire?
Je vois 92, je crois, il me semble, de l'Assassin à 92, donc ça remonte, ça commence à remonter.
Elle a l'air d'être un peu intemporelle, Amélie Nothomb, un peu.
C'est ça, c'est ça. Alors elle est surtout très présente, puisqu'elle est présente à chaque rentrée littéraire. Donc elle est très prolixe, hein, elle nous donne vraiment à manger chaque année, c'est un plaisir. Donc c'est un look, c'est une plume vraiment incroyable. Ce que j'aime, c'est que ce sont des romans qui se lisent bien, qui se lisent vite, et qui ont toujours une fin un peu surprenante. Amélie Nothomb n'aime pas trop les fins de romans, hein, c'est ce qu'elle disait, c'est quelque chose qu'elle bâcle régulièrement, les fins de romans, mais moi c'est ce qui me plaît limite le plus chez elle, c'est comment se terminent ces histoires. Donc Amélie Nothomb, voilà, et c'est aussi Amélie Nothomb, c'est une rencontre aussi que j'ai pu faire il y a 2 ans.
J'allais vous poser la question, est-ce que vous l'avez vue en vrai?
Ouais, je l'ai vue une fois. Alors je ne voulais pas la rencontrer pour ne pas justement casser peut-être le mythe ou l'admiration que j'avais pour elle, pour l'auteur, pour la femme aussi, parce que c'est une grande dame.
C'est quoi? C'est qu'on a peur d'être déçu du résultat final en face à face.
Ouais. On a peur, et puis on se crée aussi un imaginaire, hein. On s'imagine, le personnage, voilà, on la voit à la télé, mais bon, ça s'arrête là. Et puis de voir de nombreux témoignages de personnes qui l'avaient rencontrée, qui étaient enchantées, je me suis dit, bon, allez, elle vient à Lille, saute le pas, vas-y. Donc j'ai pris ma bagnole et je suis allé donc la rencontrer dans une dédicace, hein. Et là, j'ai été très surpris de l'accueil, du temps qu'elle a pu passer avec moi, comme avec les autres. Elle prend vraiment le temps de discuter, elle s'intéresse à vous, elle vous pose des questions, ce que vous faites, d'où vous venez, pourquoi vous venez la voir, ce que vous avez pensé du roman. Ce n'est pas qu'une signature, c'est réellement un temps d'échange.
Voilà. Ça doit être assez impressionnant quand même, on se dit, ouais, faut que je sois bon, elle me pose des questions, faut pas que j'ai l'air trop bébête.
C'est ça, ouais, on a quand même affaire à un auteur, donc c'est vrai que c'est moi qui ne suis pas du milieu, voilà, c'est autre chose. Hein. On a affaire aussi à un personnage médiatique, on a affaire à une femme d'influence, on a affaire à un auteur qui est étudié par des milliers de collégiens, de lycéens. Enfin voilà, c'est une référence, c'est une fille qui a voyagé, qui a rencontré un tas de personnes, hein, qui est reconnue par ses pairs, surtout en Belgique, là d'où elle vient. C'est un petit monument. Alors c'est une toute petite dame, hein, très sympathique, toute frêle, qui adore le champagne, donc ça tombe bien parce que moi aussi. Mais c'est vraiment un moment d'échange. Et puis bah maintenant, donc c'était l'année dernière, et cette année, bah elle est revenue et je suis retournée. Et ce qui est impressionnant avec Amélie Nothomb, c'est qu'elle vous reconnaît. Elle est capable de vous dire qu'elle vous a vu l'année dernière. Elle est capable de vous sortir ce qu'elle vous a dit l'année d'avant. C'est la possibilité aussi de correspondre avec elle, donc moi pas trop, parce que bon, j'ai aussi une vie qui est assez remplie, elle aussi, donc je ne lui écris pas trop entre deux, mais je sais que certains admirateurs peuvent lui écrire, mais moi j'admire sa plume, sa manière d'être, son écoute aussi, parce qu'elle est capable de vous écouter.
Ça, c'est très très beau et c'est très très rare surtout. Ouais. Il y a aussi le personnage un peu fantasque d'Amélie Nothomb. Vous l'aimez bien aussi ce côté-là, où quand elle dit j'adore manger des fruits pourris par exemple, ça vous fait quoi vous?
Alors elle dit que c'est un mythe. Hein.
Bon, d'accord.
Il faut pas croire tout ce qu'on raconte sur moi. Elle m'a dit, si on vous dit que j'aime le champagne, ça vous pouvez le croire, mais le reste, bon, tout est à relativiser. Oui, c'est surtout très théâtral, on va dire, Amélie Nothomb. Hein. C'est un personnage, c'est un look, c'est une manière de parler, de s'exprimer. C'est un charisme incroyable hein, aussi pour une toute petite dame. Ouais, c'est ça qui est fascinant, qui fascine surtout. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte que vraiment derrière, il y a une personne, une réelle personne.
Il y a une grande dame derrière la petite dame.
Oui, puis c'est une manière de vivre. C'est voilà, elle écrit très tôt le matin. Elle a vraiment son rythme de vie à elle, hein, qu'elle expose. Elle nous expose clairement ce qu'elle fait de ses journées. Et puis voilà, c'est. Mais elle garde aussi sa part de mystère et c'est pas plus mal.
Et surtout, là, on se dit quand même, on a de la chance de vivre en 2017, de pouvoir communiquer avec les auteurs, ce qui était quand même pas le cas avant. Rémi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu, de nous avoir si bien parlé d'Amélie Nothomb.
Avec plaisir.
Et à très bientôt, j'espère.
À bientôt, avec plaisir.
Au revoir.
Bonne soirée à vous, au revoir.